non-lieu de mémoire.
C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est triste, c'est triste.
Là, je mettrais plus les pieds dans le tête-ton, là.
Pas de raison aujourd'hui.
J'ai du mal à toucher Dominique Lescaut. Ça me fait mal au nez. Ça aussi, c'est la chaîne de nous.
Parce que ces trois personnes qui m'ont convoqué à 4h15, comme je vous ai dit le matin, m'ont froidement dit que c'était fini et puis que j'avais plus besoin de moi.
Mon lieu de mémoire.
Je rentre à la maison, j'ai réveillé mon mari qui était là. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Et puis je suis redescendue, puis j'ai fait le ménage. J'ai fait les enfants. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêtée, puis je me suis mise à pleurer. Voilà.
Ainsi, malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune lumière, travaillant actuellement dans l'horlogerie genevoise, qui accepte de témoigner.
Et puis bon, ben, de temps en temps, ben, si je veux me payer quelque chose, un petit supplément, ben, je bosse le soir. Je rebosse après le boulot de l'usine.
Je suis trop fatiguée le soir. J'ai une immense fatigue intérieure. J'ai même pas le courage. Le matin, des fois, je me lève, je me dis, oh, ben mince, il faut retourner au boulot. Je suis déjà fatiguée avant de sortir du lit. J'arrive pas à me reposer complètement.
Je suis au montage de collants. Je suis assise dans la machine. Puis à ma gauche, chez les collants, c'est déjà fait. C'est la jambe. C'est une jambe et l'autre jambe. Fait.
Moi maintenant, je ne peux plus y aller. J'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté. C'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.
Non-lieu de mémoire.
Pendant l'entre-deux-guerres, se dessine une tendance à concentrer les efforts sur la signature de contrats collectifs entre organisations patronales et syndicats ouvriers. Contrats ayant une valeur extensive pour une branche entière de l'économie dans un canton ou à l'échelle nationale. En 1929, on recensait 303 conventions collectives, y compris les accords d'entreprise. En 1938, ce chiffre passe à 417, dont 22 ayant une extension nationale, 238 locales et 157 concernent une seule entreprise. Mais une de ces conventions nationales aura un retentissement exceptionnel et fera figure de manifestation la plus visible de l'évolution du syndicalisme suisse. Elle sera par la suite la référence historique constante, tant des défenseurs que des adversaires de la politique de l'union syndicale. Il s'agit de la convention dite de « paix du travail », signée le 19 juillet 1937 entre les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers de la métallurgie. Les parties contractantes s'engagent à ne recourir à aucune méthode de combat, telle la grève ou le lock-out. Un conflit important dans la métallurgie en 1934 s'était terminé par la médiation du département fédéral de l'économie publique. Cela provoque une rencontre entre Konrad Hilg, président central de la FOMH, la Fédération des ouvriers de la métallurgie et de l'horlogerie, et le président de l'association patronale de la métallurgie, Ernst Duby. Leurs deux organisations protestent en commun auprès du Conseil fédéral contre cette atteinte portée au principe de la liberté des contrats. De nouvelles entrevues approfondissent l'entente réalisée entre les deux hommes et aboutissent à la signature de cette convention de paix du travail, à laquelle s'associent les organisations syndicales confessionnelles et l'Union suisse des syndicats autonomes. Voici le texte du préambule de cette convention.
Dans le but de maintenir la paix sociale en faveur de tous ceux qui sont intéressés à l'existence et à l'essor de l'industrie suisse des machines et métaux, l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, d'une part, et les quatre fédérations ouvrières susmentionnées, la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse, l'Association suisse des ouvriers et employés évangéliques, l'Union suisse des syndicats autonomes d'autre part, conviennent d'élucider réciproquement, suivant les règles de la bonne foi, les principaux différends et les conflits éventuels, de chercher à résoudre ces derniers sur la base des dispositions de la présente convention, et d'observer pendant toute sa durée une paix intégrale. En foi de quoi ? Toute mesure de combat, telle que la mise à l'interdit, la grève ou le lock-out, est réputée exclue, même à l'égard de tous autres différends éventuels relatifs aux conditions de travail non spécifiées dans la présente convention.
De fait, dans sa première forme, la convention ne comporte aucune précision particulière relatives aux conditions de travail, aux salaires, aux horaires, ces précisions étant laissées à des contrats plus limités. Konrad Hilg expliquera ainsi les motifs qui l'ont amené à signer la Convention de paix du travail.
« J'étais convaincu qu'il doit être possible, dans notre pays, tout en respectant pleinement l'indépendance des deux parties contractantes, de réaliser une réglementation des rapports entre patrons et ouvriers, répondant véritablement aux sentiments et à la pensée de notre peuple, ainsi qu'à ses traditions démocratiques. »
La presse communiste commente ainsi la signature de l'accord.
« Qu'apporte la Convention aux ouvriers métallurgistes ? Tout d'abord, aucun avantage, car elle ne contient aucune disposition concrète sur les salaires, les vacances et autres conditions de travail. La liquidation de la grève, le plus éprouvé et efficace des moyens de combat, tel est son contenu. D'un jour à l'autre, il devrait être possible de défendre les intérêts des métallurgistes sur la base de délibérations devant les offices de conciliation aussi efficacement que par des actions. Les rois du fer et de l'acier, qui dans les années de crise, ont réduit sans le moindre égard les salaires à des niveaux de famine et ont augmenté d'un multiple le rythme de travail par des rationalisations d'envergure, cela devrait, d'un jour à l'autre, être tout prêt à venir au devant des désirs des ouvriers. C'est au moment où l'industrie des machines et métaux, qui travaille pour l'exportation, est redevenue plus concurrentielle grâce à la dévaluation, au moment où elle connaît un taux d'emploi croissant, au moment où elle assure aux industriels des profits gigantesques, que cette convention, qui doit être qualifiée de honteuse, est signée derrière le dos des ouvriers métallurgistes.
C'est qu'en effet, Konrad Hilg, en signant la convention pour conformer l'action de la FOMH aux, selon lui, traditions démocratiques du peuple suisse, n'a pas cru bon d'en aviser ni les membres, ni même les fonctionnaires de sa fédération, qui l'engageaient pourtant, au moins en principe, dans une révision complète de la tactique. Le journal de la fédération, La Lutte syndicale, ne fait pas mention de l'accord. Une fois celui-ci signé, Konrad Hilg distribuera un communiqué explicatif à la grande presse, et c'est par cette voie que les membres de la fédération pourront prendre connaissance de l'existence d'un tel accord.
La colère a été la plus forte, et en même temps, elle a lézardé l'édifice de la paix du travail, en contestant une décision rendue par un tribunal arbitral prévu par la convention collective.
Dans les années 70, cette paix du travail sera remise en question par la base syndicale et par des mouvements ouvriers qui échappent relativement aux syndicats, comme ici à Couvet, à l'usine Dubier, en août 1976.
Quand ça a démarré lundi passé, vous vous rendiez compte de l'ampleur que ça prendrait ?
Franchement, non.
On ne pensait pas que ce serait on déjà une ampleur nationale, parce que ça devient national maintenant. Notre mouvement est compris de tous les ouvriers suisses et... On espère réussir pour eux, hein. Mais on ne pensait pas que ça prendrait une ampleur nationale. On pense... Pour ce 13e salaire, c'était déjà un fait dubié. On ne pensait pas que ça contredirait les conventions.
Vous êtes français, ça surprend que ça se passe en Suisse.
Ah, ça me surprend beaucoup parce qu'on en a parlé toujours dans les équipes. On en parle entre nous, puis on dit « Ah, les Suisses, vous devriez faire la grève ». On en discutait. « Ouais, mais on n'a jamais vu ça ici ». Puis pour finir, pof, tout le monde est sorti. Alors nous, ah, surpris, vraiment surpris, alors à fond, hein. Impensable.
Eh bien, devant le patron, il aurait dû avoir une femme qui était ici présente.
Vous n'êtes pas exclue, vous, femmes, vous sentez dans le même bateau que les hommes.
D'accord, mais on pourrait s'exprimer un peu plus vis-à-vis de tout le monde, quand même, les femmes.
La FTMH a dû suivre ce mouvement et défendre les grévistes, mais sans pour autant pouvoir officiellement, ouvertement approuver leur action. Et pourquoi ? Eh bien, simplement parce que cette action est en contradiction avec le système des conventions collectives, avec la paix du travail, cette paix du travail que les syndicats ont précisément pour tâche de défendre. Et c'est cette distorsion qui pose le problème de fond, voire remet en cause le système.
La FTMH est avec les ouvriers, elle n'est pour rien dans le déclenchement du conflit. Ce conflit pose un certain nombre de questions de principe, à savoir l'application en temps de crise de conventions qui ont été conclues en période de haute conjoncture et qui ne contiennent pas nécessairement tous les détails et toutes les modalités que nous voudrions y voir.
Elles sont imparfaites.
Elles sont imparfaites. Elles le seront toujours, mais elles sont surtout imparfaites étant donné la modification conjoncturelle.
Politiquement, est-ce qu'une grève comme celui-là, un conflit comme celui-là, risque de changer quelque chose pour l'avenir ?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par politiquement, mais il est évident que ce conflit aura des incidences lors des négociations futures pour le renouvellement des conventions collectives.
Pour le syndicat, est-ce que c'est une remise en cause fondamentale d'un système ?
Il n'en est pas question. Il est plutôt question pour nous d'éviter des accros de ce genre-là pour avoir en main des textes qui répondent à toutes les situations.
En dépit d'une série de grèves dites sauvages dans les années 70, notamment à Genève, dans le secteur de la construction, la ligne syndicale ne variera jamais, maintien de la paix du travail et défense des conventions collectives.
L'association patronale, de son côté, a adopté une position intransigeante. Elle exige l'application à la lettre de la convention collective et le respect absolu d'une décision rendue par le tribunal arbitral. Pour elle, transiger, ce serait faire un précédent inadmissible. Céder, ce serait admettre qu'à l'avenir, les conventions peuvent être contestées, remises en cause, et cela pourrait la condamner à un régime de concession qu'elle ne peut évidemment pas admettre. Pour l'ASM, il n'est pas question de transiger sur les principes.
Non, monsieur, c'est impossible, vu que si nous transigions, ce serait tout l'état de droit et l'état de la juridiction d'arbitrage qui serait mis en jeu, et alors nous ne pouvons pas nous permettre une telle chose.
Politiquement, est-ce que ça hypothèque l'avenir ?
Si la force devait triompher contre le droit, oui. Sinon, éventuellement qu'on pourra sauver cette convention de paix si critiquée et tout de même si utile au pays.
Personnellement, est-ce que vous pensez que les conventions collectives ont encore un avenir sous la forme qu'elles ont actuellement ?
Je le crois, parce que ce n'est pas une question de temps ou de mode, c'est une question de mentalité. Et alors il s'agit d'essayer de maintenir une mentalité qui est tout à fait conforme à la mentalité du pays.
À la fin de cette deuxième semaine de grève, alors que les partis en présence cherchent très difficilement à sortir de l'impasse, à régler le problème au premier degré, à obtenir la reprise du travail sans transiger au niveau des principes, c'est désormais pour la Suisse entière la question fondamentale qui est posée. Et c'est celle qu'il faut retenir ce soir. Quel sera l'avenir, après ce conflit, des rapports entre travailleurs et patronat ?
Alors le labyrinthe allégé du Minotaure, prit cette forme achevée du silence désigné par l'oubli. Non moins perdus donc étaient ceux que les songes de Minos, concurremment allégés, dirigeaient vers la fatale porte, tant qu'à la fin, le peuple entier disparut. Mais le peuple entier se trouvant dans le labyrinthe, le silence redoubla le silence, l'oubli redoubla l'oubli, et nature fut donnée à l'inextricable. On demandera comment Craton, qui était crétois, put signifier ce qu'il avait oublié lui-même. Et ce seul fait de parler le silence expliquerait qu'on ne l'ait pas entendu. Mais outre cela, il était machiné par le lieu d'où il parlait. En d'autres termes, sa propre parole était inextricable.
La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet,